explorer de nouveaux mondes étranges,
traverser des mers lointaines, franchir des déserts et escalader des montagnes de glace.
Amis de l'aventure, l'aventure nous appelle.
Aujourd'hui, c'est avec un as de l'évasion que nous partons, un écrivain qui a fait de sa vie un voyage perpétuel, un auteur passé maître dans l'art de nous embarquer en un claquement de phrases. Avec lui, nous avons parcouru les steppes d'Asie centrale à cheval, séjourné dans une cabane au bord du lac Baïkal, attendu la panthère des neiges sur les hauts plateaux du Tibet, ou encore sillonné la mer Méditerranée sur les traces d'Ulysse. Au fil des récits, la vie de notre écrivain, Sylvain Tesson, prend des allures d'Odyssée que rien ne semble pouvoir interrompre, pas même la chute de 8 mètres qu'il a faite en 2014 et qui a failli lui coûter la vie. Le corps était abîmé, mais l'envie de prendre la route intacte. Alors dès qu'il a pu se tenir debout, il s'est lancé dans une traversée de la France à pied par ses sentiers oubliés, pour mieux repartir ensuite sur les chemins de traverse du monde. Comme toutes les Odyssées, celle de notre écrivain voyageur est jalonnée d'épreuves, mais elle est loin d'être terminée. Cet après-midi, Sylvain Tesson vient nous raconter son goût du voyage et partager avec nous quelques-unes de ses dernières aventures. Et en fin d'émission, nous explorerons les profondeurs de la mer Méditerranée avec le plongeur et photographe Laurent Balesta. Voilà pour le programme de cette émission, préparée par Claire Tesser et réalisée par Hélène Couillounjean et Étienne Bertin, avec à la technique Julien Dumont. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Les plus beaux jours de ma vie, c'était l'an dernier, quand je me suis enfui de chez moi. Je ne savais pas où j'allais et je continuais à avancer. Je n'ai jamais vu des jours si longs et si colorés. Mais je n'allais jamais assez loin. Je veux marcher jusqu'en Afrique et traverser le désert. Je veux du soleil. Je veux du soleil!
Où veux-tu aller?
J'en sais rien. Je m'en fiche, je veux m'en aller.
Bonjour Sylvain Tesson.
Bonjour.
Ce désir d'aller loin sans trop savoir où que l'on entendait à l'instant, c'est celui d'Arthur Rimbaud, à la rencontre duquel vous nous avez emmené tout l'été dans la matinale de France Inter. La série de chroniques Un été avec Rimbaud est encore podcastable. En travaillant sur la vie et l'œuvre de Rimbaud pour écrire ses chroniques, votre regard sur ce poète a-t-il évolué? S'est-il affiné?
C'est-à-dire que il y a le poète et puis il y a le voyageur. Il y a le génie du verbe, et puis il y a le génie de l'exploration, de la géographie, de la photographie, de l'aventure. Et dans les deux cas, il semble y avoir une volonté d'échapper à quelque chose. Dans votre très amicale introduction, vous m'affublez du titre d'artiste de l'évasion. Je précise une chose, c'est que moi, je ne cherche à ne m'évader que de moi-même. Rimbaud semble avoir voulu s'échapper de quelque chose qui l'écrasait, qui était plus grand que lui, qui l'a amené à, dès 15 ou 16 ans, à écrire les plus beaux vers de la langue française. Je pense que quand on est doté d'une telle puissance de création, cela doit être douloureux, comme certaines pathologies. Peut-être était-ce à cela qu'il voulait échapper. Et puis ensuite, quand il est parti en Afrique, on a aussi l'impression que ces chemins de douleur, ces chemins de soleil, de chaleur, d'écrasement, qui l'a amené à accomplir des milliers de kilomètres dans des conditions physiques extrêmement difficiles, et on a l'impression qu'il essayait également d'échapper à quelque chose. Peut-être à lui-même, je ne sais pas.
Et vous, quand vous voyagez, il n'y a jamais ce désir de fuir, Sylvain Tesson?
Si, mais vous savez, je pense que chez tous les voyageurs qui se sont succédés à votre micro, il y a toujours eu chez eux le désir de fuir. Seulement, personne ne l'a jamais avoué. Parce que c'est pas très noble, on préfère dire non, je pars pour m'ouvrir à l'autre, je pars pour progresser dans la connaissance, je pars pour apporter ma pierre à l'édification du savoir humain, et toutes ces balivernes, et toutes ces foutaises. Mais en réalité, non, nous cherchons à fuir, nous cherchons à fuir l'ennui, nous cherchons à fuir une certaine morosité, nous cherchons à fuir les habitudes, nous cherchons à fuir ce que nous prenons pour une grisaille, parce que nous n'avons pas suffisamment de ressources en nous pour colorer la vie. Alors nous pensons que la distance, le pittoresque, l'imprévu va apporter un chatoiement, quoi, une gaieté.
Ouais. Et puis peut-être aussi une source d'inspiration. Rimbaud, lui, a décrit des sensations de voyage dans ses poèmes alors qu'il n'avait encore pas voyagé, il n'avait encore rien ressenti, il a pressenti.
Ben oui, quand vous lisez l'un de ses poèmes les plus connus, qui est le poème du bateau ivre, il fait des descriptions de la mer, des ciels, des visions qui se succèdent devant ses yeux et qui semblent celles d'un explorateur qui reviendrait de très longs périples, et alors qu'en réalité il n'avait pas quitté son Ardennes.
Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand, avec mes haleurs, on finit cet tapage, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marais, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus. Et les péninsules des marais n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes, 10 nuits, sans regretter l'œil niais des falots. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer.
Rimbaud n'a pas eu besoin de voyager pour décrire des sensations de voyage. Vous, Sylvain Tesson, vous avez besoin d'abord d'éprouver le paysage, le décor, avant d'écrire.
Bah oui, hélas, vous comprenez,
c'est toute la différence.
Bah oui, c'est ce qui sépare un génie qui, de temps en temps, traverse le siècle de tout le reste de la population. Alors, malheureusement, moi, je dois, pour voir les choses, pour avoir des quelques visions devant mes yeux, ben je suis obligé d'aller les convoquer, d'aller les chercher.
Vous avez été géographe, enfin vous êtes géographe de formation plus exactement. Est-ce qu'il reste quelque chose de votre œil de géographe quand vous décrivez les paysages ?
Plus que quelque chose, je crois que ça constitue mon regard. C'est la géographie qui m'a appris à regarder le monde. C'est la géographie qui m'a fait comprendre que le voyage, le déplacement à travers les paysages, était un cheminement de la pensée. Quand on marche dans un sentier de montagne, ou quand on marche au bord d'un littoral, ou quand on traverse une forêt, et qu'on a étudié la géographie physique, on essaye de comprendre comment les structures du relief se sont agencées. Il y a les formations structurelles physiques, et puis il y a ce que l'homme en a fait. Alors, on passe de la géographie physique à la géographie humaine, et à chaque fois, c'est une extraordinaire traversée de l'histoire, mais par un regard posé sur la géographie.
Vous avez écrit dans Les Chemins Noirs, certains hommes espèrent entrer dans l'histoire, nous sommes quelques-uns à espérer disparaître dans la géographie. Il y a cette idée aussi d'aller se perdre, de se soustraire au regard des autres, d'échapper un peu.
Oui, oui, alors évidemment, il arrive très souvent que beaucoup de mes proches, beaucoup de mes amis considèrent avec sarcasme ce genre de phrases et de pensées dans ma bouche, parce que je passe mon temps devant des micros ou sur des écrans à expliquer que c'est merveilleux de disparaître, de fermer la porte des cabanes derrière soi.
C'est vrai qu'il y a un paradoxe.
Bien sûr, bah oui, mais qui n'en a pas, voulez-vous me le dire? Présentez-le-moi, celui qui n'est pas perclus de ses propres contradictions. Alors moi, oui, j'adore courir comme ça les estrades pour clamer partout qu'il faut se taire et vivre dans le silence au fond des bois. Parce que j'aime aussi le verbe, moi. J'aime bien bavarder, j'aime parler, je le fais beaucoup tout seul. Et j'ai l'impression, quand je suis devant un micro, c'est là où les gens se trompent beaucoup. Moi, je parle tout seul quand je suis devant un micro, sauf avec vous, bien sûr,
oui,
j'écoute ce que vous me dites.
Gentil.
Mais j'aime bien l'idée, j'aime le maniement des mots. Alors, pour répondre à votre question sur l'histoire et la géographie, oui, il y a des êtres du temps et des êtres de l'espace, il y a des êtres de la durée et des êtres du mouvement. Moi, j'aime bien la propulsion, non pas dans les années. Je me fiche complètement de ma biographie, je me fiche complètement des traces que je pourrais laisser. Par exemple, je ne fais pas d'enfants, je ne construis pas de maison. Je me fiche assez de ce que mes proches peuvent penser de moi. Mais en revanche, j'aime énormément pratiquer le terrain. Ouais. C'est mon usage du monde, c'est pas mon usage du temps.
Vous vous fichez aussi de la trace que laissera vos livres? Que laisseront vos livres?
Non, mais je m'en fiche pas, mais moi je suis parfaitement lucide. Mais parfaitement lucide, vous voyez, parce que je lis beaucoup. Énormément, toute la journée, je passe ma vie à lire, et je lis beaucoup de classiques. Et alors je sais ce que je vaux, parce que je me suis créé, à force de lire beaucoup, une sorte d'échelle de référence, et je vois que ça vaut pas grand chose, ça vaut pas tripette, comme on disait autrefois. Alors je suis très content que mes livres puissent rencontrer
un certain succès.
Non, hein. Mais des lecteurs, je suis très, très heureux de ça. Mais il faut pas confondre une faveur de librairie avec un phénomène de durée. C'est pas du tout de la fausse modestie. Hein. Je suis très lucide sur moi-même et je sais très bien que le jour où j'arrêterai de soutenir mes livres par la vie que j'ai, qui me permet de raconter les choses et de raconter mes aventures, tout ça se terminera et je m'en fiche complètement.
C'est par la littérature que vous êtes venu au voyage ou c'est le voyage qui vous a amené à lire les récits des autres?
Et c'est un peu les deux, c'est-à-dire que j'ai compris, lors de mon premier voyage autour du monde à bicyclette, j'étais parti avec Alexandre Poussin, de la porte d'Orléans à Paris à la porte d'Italie en passant par le Tibet, et j'ai compris... franchement, je sais pas si j'ai circulé dans Paris, mais on n'a pas mis plus de temps, on a mis qu'un an. On a fait un très beau voyage, et je me suis aperçu lors de cette circulation à bicyclette qu'il y avait un exercice merveilleux, enfin c'est très banal ce que je vais vous dire, mais qui était de vivre des choses et de les revivre le soir en les retranscrivant dans un petit carnet. Ça pour moi c'était génial. Tout d'un coup, l'écriture m'offrait une autre vie, celle du soir. La prise de notes sur le carnet. Et à ce moment-là, je me suis mis à faire des livres.
Vous êtes un adepte aussi des voyages en équipe, hein, pas seulement des voyages qui vous emmènent dans des cabanes reculées au bord du lac Baïkal. Par exemple, vous vous êtes élancé à bord d'un voilier dans le sillage d'Ulysse. Là aussi, la littérature qui vous amène sur le terrain. Vous avez tenté d'ancrer un mythe dans la réalité de la géographie. Voilà une aventure audacieuse que vous allez nous raconter dans un instant. Sylvain Tesson est avec nous sur France Inter, le temps d'un bivouac. Footsteps, then a voice say hi, so what you got this time? Come on, let's get high. Come on, look, so what you got next, though? Walk 25 miles, oh, well, I'm bored. Come on, let's get high. C'était Franz Ferdinand, Ulysses.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Et bonjour.
Allez.
Allez, attention, attention les pieds, vous êtes mouillés.
Là. a una rascata, una trappela. Oh là là, che buona che è.
Ça fait combien de temps que tu pêches?
Et j'ai pêché à l'âge de 10 ans, à commencer à pêcher là. Et ça... après, peut-être il y a plus de 50 ans que je pêche.
Ici?
Ici, partout. Autrefois, on allait pêcher l'espadon au filet. Mais maintenant, c'est interdit, alors on ne peut pas. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Je suis un peu comme Ulysse.
Un peu comme Ulysse, oui. Hein? Bien sûr,
un peu comme Ulysse. Un peu comme Ulysse.
Oui.
Sylvain Tesson avec Gaetano, un pêcheur à la longue barbe blanche au large de l'archipel italien des îles Éoliennes. C'est un extrait de la série documentaire Dans le sillage d'Ulysse, diffusée sur Arte. Alors après avoir proposé une série d'émissions sur l'Iliade et l'Odyssée d'Homère à l'été 2017 sur France Inter, vous avez eu envie de partir cette fois réellement pendant un mois et demi dans un grand voilier, une goélette, sur les traces d'Ulysse. Ça a d'ailleurs donné lieu à la édition du livre Un été avec Homère, coédition Équateur France Inter, enrichie d'étoiles de Laurence Bost, une peintre qui a fait le voyage avec vous. Alors Ulysse est un personnage de légende. Comment on prépare un voyage sur les traces d'une légende et d'un mythe, Sylvain Tesson?
Et c'est avec le réalisateur Christophe Rella que nous avons eu l'idée de répéter l'itinéraire d'Ulysse. Seulement, à partir du moment où vous avez cette envie, il se pose un problème, c'est de savoir quel est cet itinéraire, puisque c'est de la mythologie. Or, il y a eu, dans le début du XXe siècle, avant-guerre, un érudit helléniste qui s'appelait Victor Bérard, qui s'est épris d'une théorie qu'il a essayé de défendre et d'appliquer sur le terrain. La théorie qui était que l'Odyssée était un traité de navigation phénicienne, hérité des Phéniciens par les Grecs et qui avait permis aux Grecs de circuler sur la Méditerranée en s'inspirant des techniques maritimes. Mmh. Et alors, à ce moment-là, il a fait tout un travail de preuve de sa théorie en montrant où se situaient les épisodes de l'Odyssée d'Ulysse. Il a tracé une cartographie ulyssienne extrêmement précise en disant que le Cyclope, ça s'était passé ici, que Stromboli était l'île d'Éole, que l'Etna était les îles du Soleil, que Calypso se situait à Gibraltar. Il a comme ça inventé une espèce de cartographie mythologique. Et nous, on s'est servi des travaux de Victor Bérard pour tracer l'itinéraire de notre voyage en 2019.
Ouais. Alors aujourd'hui, les hypothèses de Victor Béard ont volé en éclats, hein, mais vous aviez quand même envie d'emprunter cette route, ce chemin dans la Méditerranée, d'île en île. C'est un jeu.
C'est ça, c'est-à-dire que Victor Bérard, il y a deux choses. Il y avait la théorie scientifique qui est fausse, enfin qui en tout cas a été extrêmement battue en brèche par les dernières études antiques, la théorie phénicienne. Mais il inventait autre chose. Il inventait l'idée qu'on pouvait jouer à reconnaître dans la géographie ce qui a inspiré le poète. Or, moi, ça fait des décennies que j'essaye de comprendre ça, de le toucher du doigt, si je puis dire.
Le mécanisme de l'inspiration?
Le mécanisme de la transfusion de l'expérience sensuelle dans la nature en inspiration littéraire. Or, Victor Bérard, pour revenir à lui, il dit ça. Il dit... Homère est un géographe, il s'est servi des falaises, il s'est servi du soleil, il s'est servi de la mer, il s'est servi des reflets, des vagues, des plages, des montagnes. Il s'est servi de ce peuple qui laboure la mer, qui laboure les champs, qui grimpe sur la montagne, qui pêche, qui cultive. Il s'est servi des blasons de la Méditerranée, de l'huile d'olive, du vin, du poisson, du pain, du blé. Il s'est servi de toute cette matière organique et sensorielle pour faire son poème. Il a infusé ces éléments dans la mythologie.
Et moi, j'aime bien cette matinée parce qu'on a vraiment l'impression que l'Odyssée rejoint notre petite aventure personnelle et anecdotique. Parce qu'au moment où on quitte l'île des Vaches du Soleil, alors à ce moment-là, la mer se lève, elle est furieuse. Ce qui se passe dans l'Odyssée, parce que quand ils ont mangé les Vaches du Soleil, ils ont commis le pire des crimes, qui était de désobéir à l'ordre divin. Et à ce moment-là, en hurlant, nous arrive un furieux zéphyr qui souffle en ouragan. La rafale rompant d'un coup les deux étais nous renverse le mât et fait pleuvoir tous les agrès à fond de cale.
Il faut vous imaginer sur le pont de ce bateau, secoué par la tempête, par l'orage en tout cas, parfaitement à l'aise, pour citer les vers d'Homère, Sylvain Tesson. On a l'impression que le texte enrichit le réel, sublime, apporte du merveilleux à cette tempête.
Il y a les deux mouvements. Le texte enrichit le réel et c'est probablement le réel qui a alimenté le texte.
Ouais.
Et les images que Homère décrit dans l'Iliade et dans l'Odyssée sont encore là. Rien n'est plus éternel que la poésie. Et rien n'est plus ringard que l'actualité immédiate qui immédiatement s'épuise, tandis que la poésie, elle perdure. Et c'est la raison pour laquelle moi je voulais que Laurence Bost, le peintre Laurence Bost, vienne à notre bord. Je trouvais ça merveilleux de faire un voyage en demandant chaque jour à un artiste de nous montrer le soir quel avait été le motif, le blason, l'essence de la journée. Parfois c'était une vision maritime, parfois c'était une côte, parfois elle se contentait de peindre un arbre, ou un oiseau, ou un visage, un pêcheur, une barque. Enfin, elle captait quelque chose. Et je trouvais ça infiniment plus fort dans l'ordre de la fixation dans la mémoire que toutes les images que pouvaient prendre les appareils.
Pour vos lecteurs, se dessine un peu une odyssée, votre odyssée à vous, Sylvain Tesson, avec ces épreuves, la dernière en date. Alors on change complètement d'univers, vous nous emmenez sur les plateaux tibétains. Cette fois-ci, votre épreuve, c'est de vous tenir tranquille pour voir la Panthère des Neiges. Décrivez-nous déjà l'endroit dans lequel on se projette maintenant.
On n'est pas très loin des sources du Mékong, au Tibet. Et à une altitude comprise entre 4000 et 5000 mètres selon l'endroit où on fixe l'affût. Et ce sont des steppes d'altitude, des steppes pelées avec des rocailles, des canyons calcaires. Et la Panthère des Neiges prospère dans les endroits où il y a une alimentation, c'est-à-dire du bétail. Elle se nourrit de chèvres bleues, de caprins, de yaks. C'est le photographe Vincent Munier qui m'avait proposé de
l'un des meilleurs photographes animaliers de l'époque, hein, de sa génération, on peut le dire.
Ah, oui, vraiment, on peut le dire. Enfin, je crois que c'est même plutôt un artiste total qu'un photographe. C'est vraiment un homme de l'œil. Alors, il se trouve que il est tombé par hasard devant un appareil de photographie, donc c'est ça qu'il a utilisé comme instrument. Mais je crois que c'est un artiste absolu. Il réussit à fixer le fugace, l'éphémère et l'intangible.
Alors à ses côtés, vous avez dû apprendre la discrétion, parce que pour capter le fugace et l'intangible, il faut rester calme. Et à en croire Vincent Munier, votre compagnon de route, ça n'a pas été forcément facile.
J'étais un petit peu inquiet à l'idée d'emmener ses mains, parce qu'il a la bougeotte quand même, et c'est une force physique incroyable, et il a une envie, et on le voyait au tout début, il partait devant, quand on arrive en limite de crête, souvent moi j'y arrive à plat ventre, je fais très attention et j'y vais avec les jumelles. Sylvain, c'est dû sûrement à sa passion de l'alpinisme, arrive un peu en conquérant sur le haut de la crête, mais non, ça c'est juste impossible au Tibet, parce que derrière la crête, il peut y avoir la panthère qui est couchée ou d'autres, donc tout ça, il a fallu un tout petit peu, une petite mise au point, mais ça a été très très rapide. Après j'étais agréablement surpris de voir un Sylvain Tesson discret, vraiment à l'écoute, besogneux. Il écrivait énormément, énormément et attentif.
Sylvain Tesson, ça a été un apprentissage d'approcher cette Panthère des Neiges ?
Oui, c'est grâce à Munier que j'ai compris que la patience n'était pas forcément une punition et que l'attente n'était pas forcément une épreuve et que le silence... Enfin, je l'avais un peu expérimenté quand j'étais resté pendant 6 mois dans une cabane en Russie, mais c'était un faux ermitage, cette cabane, parce que d'abord, je buvais beaucoup, donc j'étais pas complètement seul. On n'est jamais seul. Quand on boit beaucoup, on réveille des présences en soi-même. Ouais. Et puis, j'arrêtais pas de sortir de ma cabane pour aller circuler. Je faisais des randonnées, donc je rayonnais autour de ma petite hutte en bois. Tandis que là, Munier me disait, maintenant, on se pose, et peut-être qu'on reste là pendant 24 heures. Et là, vous ouvrez les yeux devant une steppe, c'est-à-dire un néant. Et puis tout d'un coup, au bout de la 17e heure, il y a un lapin qui passe. Alors là, absolument, la Munier s'excite. Et puis tout d'un coup, un loup qui chante au bout de 28 heures. Et puis c'est tout. Et bien, au bout d'un moment, on comprend que ce qui est important, c'est pas Ce que je vais dire, c'est presque une espèce de caricature du proverbe chinois. Ce qui est important quand on attend, c'est pas la chose que l'on attend, mais c'est le fait d'attendre. Alors tout ça qui ressemble à une espèce de blague carambar de Confucius, ben, il se trouve que c'est vrai. C'est vrai, on apprend tout à coup à s'installer dans la durée, dans le silence, dans l'épaisseur du temps qui passe.
Ça vous ressemble quand même pas trop. Hein. Vous avez souvent dit, on voyage pour faire voir du pays à son ennui. Hein. L'ennui va moins vite que l'homme pressé. Enfin, ça a été quand même souvent ça, hein, vos principes de vie.
Oui, moi j'aime la rapidité. Et oui. J'aime beaucoup la rapidité parce que je trouve que plus on est rapide, plus on est aux aguets. Comment c'est qu'on n'a pas de temps ? Il y a une espèce de fébrilité. Quand on est dans la voracité, on est très attentif et on met son appareil de perception des choses, on le règle à des températures comme ça extrêmes parce qu'on sait que ça ne sera pas long. Donc il faut capter les choses. Moi, je suis plutôt du genre bête de proie que ruminant.
Oui.
Il y a des gens qui ont des sacs, comme les vaches qui ont des tas de sacs gastriques, ben, il y en a qui ont des sacs cérébraux, et alors ça rumine, les idées ruminent, elles font des va-et-vient. Moi, je préfère fondre sur une idée, au risque d'ailleurs d'être superficiel ou de taper à côté. Mmh. Souvent, moi, je tape à côté. Mais j'aime bien cette rapidité-là. Et Meunier, il m'a fait connaître l'exact contraire.
Ouais.
Ben, il a raison. Et j'allais contre moi-même, j'allais contre mon penchant, mais après tout, c'est ça la vie. C'est de se corriger.
Et cette Panthère des Neiges, elle est apparue. Vous parlez d'apparition, il y a un côté mystique, mais elle vous est apparue plusieurs fois. Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
C'est-à-dire qu'il y a un côté mystique dans le terme, mais en même temps, je n'en vois pas d'autre. Parce que apparaître, ça n'est pas survenir. Survenir, c'est quand on vient de quelque part. Apparaître, c'est quand vous n'avez pas vu venir la chose qui apparaît, qui tout d'un coup se présente devant vos yeux. Mais la Panthère, c'était ça. À chaque fois que je l'ai vue, je ne savais pas que j'allais la voir. Et parfois, mon œil la voyait déjà avant que mon esprit comprenne que je la voyais. Ça a été un moment de, c'était à la fois un saisissement, une espèce de secousse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire avec ce terme. Il y a un ébranlement, quoi. Tout d'un coup, on voit une bête dont, d'abord, je pensais ne jamais voir de ma vie. Je pensais qu'elle avait d'abord disparu. On voit à la fois la puissance, la grâce.
Ça vous renvoie aussi à des douleurs, des blessures plus personnelles.
C'est-à-dire que par quelque chose de tout à fait inconscient, c'était pas du tout voulu, j'ai eu la superposition devant la face de la Panthère, du visage de deux êtres qui ont disparu de ma vie, à cause de la séparation ou à cause de la mort.
Votre mère et une femme que vous avez aimée.
Et une femme aimée. Et étonnamment, les visages se superposaient. C'était bizarre, comme dans les films, le fondu enchaîné. Voilà. Mmh. Je voyais un visage à la place de l'autre visage. Alors, c'était très impressionnant. Peut-être était-ce l'hypoxie.
Il y a vraiment quelque chose d'homérique, hein, maintenant, dans votre épopée. Vous êtes d'accord avec cette histoire d'Odyssée ?
Non, écoutez, franchement, moi, je veux bien faire des commentaires sur des tas de choses, mais sur moi, c'est vraiment ce qui m'ennuierait le plus.
On poursuit nos pérégrinations avec Sylvain Tesson, Le temps d'un bivouac sur France Inter.
Visions, trying to make sense of a now, trying to make sense of a past, to show us how. Visions, imagining the worlds that could be, shaping a mosaic of fate for all sentient beings. Visions, cycles of growth and decay, cascading chains of events, with no one to praise or blame. Ooh. Ooh. Visions, avoidable suffering and pain, we are patiently itching away toward unreachable utopias. Visions, enslaved by the forces of nature, elevated by mindless replicators,
talents to steer our collective destiny. Visions, look at the magic of reality, while accepting with honesty that we can't know for sure what's next. No, we can't know for sure what's next, but that we're in this together. We are here
C'était Visions de José González sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Je crois que le plus grand cadeau du voyage, c'est l'érosion. Il y a une espèce d'érosion qui fait qu'on revient plus mince qu'on était parti, d'une certaine manière plus pauvre. Si on a des plumes, c'est quand même pour les perdre, hein. Et moi, je crois qu'il ne faut pas du tout se braquer contre cette érosion qui est semblable à celle de la vie, mais enfin qui se fait dans une dynamique qui est plus naturelle, parce qu'il y a le mouvement et le déplacement dans l'espace. Alors, je crois que tout voyage muse un peu et comme un galet dans le lit d'un torrent, mais il muse et il m'arrondit.
La voix de l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier. Sylvain Tesson, que pensez-vous de cette idée que le voyage a cette vertu d'user le voyageur comme l'eau polie un galet?
Ben, j'aime bien l'idée. D'abord, j'avais jamais entendu la voix de Nicolas Bouvier, je l'avais lu, mais je savais pas qu'il avait cet accent.
Ah ben oui,
Suisse, on entend vraiment l'alpage. Et oui, bien sûr, l'usure du Bouvier par l'usage du monde. Je suis tout à fait d'accord que c'est une école de l'esquintage. Quand on voyage, on prend pas soin de soi. D'ailleurs, les autorités sanitaires de l'ordre cyber-techno-mercantilo-hygiéniste devraient interdire le voyage, puisque en voyage, on ne reste pas chez soi, on ne prend pas soin de soi et on ne se protège pas.
Alors, je vais prendre le contre-pied parce que le voyage peut aussi régénérer. Vous en avez fait l'expérience après le grave accident, Sylvain Tesson, que vous avez eu en 2014. Vous faites une chute de plus de 8 mètres du toit d'un chalet de Chamonix.
Et j'ai eu la chance de tomber par terre en 2014 en Europe occidentale. Je serais tombé du toit d'une yourte au 12e siècle en Mongolie intérieure. Je m'en serais moins bien sorti.
4 mois après votre accident, vous sortez de l'hôpital, vous écrivez « J'étais dehors, bancal, le corps en peine, avec le sang d'un autre dans les veines, le crâne enfoncé, le ventre paralysé, les poumons cicatrisés, la colonne cloutée de vis, le visage difforme. La vie allait moins swinguer. » La vie allait moins swinguer, mais pour vous, pas question d'arrêter de voyager. Les médecins vous avaient dit « On va y aller doucement sur la rééducation. » Vous, dès que vous avez pu, vous avez mis les bouts, vous êtes parti seul sur des chemins oubliés, des sentiers de traverse.
Oui, je suis parti du Mercantour et je suis allé jusqu'au Cotentin en m'appuyant sur des cartes que le gouvernement avait éditées à la suite d'une enquête sur l'hyper-ruralité, c'est-à-dire sur les zones de la France oubliées, mal desservies, mal équipées, parfois abandonnées par la puissance centrale. Ce qu'on appelait autrefois la diagonale du vide, ce qu'aujourd'hui on appelle l'hyper-ruralité. Et moi, comme j'avais envie d'une dissimulation, j'avais des idées noires, j'étais très abîmé, mon corps était enflammé de partout, j'avais eu 26 fractures, j'allais pas très bien, quoi. Alors, au lieu d'aller faire un jogging, j'ai traversé la France du Mercantour au Cotentin par des chemins de ronces, les chemins oubliés. Je m'intéressais à cette France de l'ombre. C'est vraiment la France de la ronce et du scolopendre. Il n'y a pas de Zac, de Zup, de Zep. Non, là, c'est une France où on peut se dissimuler. Et c'est ça que je cherchais.
Et vous le dites, le processus de démolition de la vie s'est inversé. Vous vous êtes régénéré tout au long de ces chemins.
Oui, c'est la marche. Moi, je savais, pour avoir déjà marché au cours de ma vie, dans l'Himalaya, dans les steppes, j'aimais beaucoup la marche et je savais le bénéfice incroyable qu'apporte la marche. C'est vraiment l'activité dont le rapport proportionnel entre sa facilité et la marche est apportée absolument de tout le monde. Enfin, ça devrait être obligatoire. Le rapport proportionnel entre la facilité de la marche et le bienfait, le bénéfice moral, physique, physiologique, intellectuel, spirituel que ça vous apporte, c'est un rapport proportionnel fantastique.
Sylvain Tesson, votre façon de vivre, de voyager, a-t-elle changé depuis cet accident? On a l'impression que vous revoyagez comme avant.
Ben, pas tout à fait comme avant, parce que d'abord, je me suis beaucoup diminué. Enfin, c'est, le fracassement de moi-même était tel que je ne peux plus vraiment faire les choses que je faisais avant. Alors, j'ai dû ralentir un peu la machine, j'ai vieilli prématurément. Alors, je vais à pas plus mesurer.
Enfin, le voyage dans le sillage d'Ulysse dont on a parlé, la Panthère des Neiges, c'est arrivé après. Là, il n'y a pas si longtemps, vous étiez avec le GMHM, le groupe militaire de haute montagne, sur les hauts sommets de Patagonie. Ça swing encore pas mal.
Oui, mais j'avance plus doucement. Non, ça swing plus. Je suis passé du swing à une danse au menuet.
Vous pouvez voyager sans écrire, Sylvain Tesson?
Non. Non, ça ne m'intéresserait pas. D'abord, je ne suis pas un écrivain de l'imagination. Je ne peux rien inventer. Rien ne naît en moi que je ne vois. J'ai besoin de sentir, d'éprouver les choses pour pouvoir raconter quelque chose. Alors, je pars faire ma moisson. Je pars chercher ce que je vais dire. Et puis, deuxièmement, moi, j'éprouve un immense plaisir à transformer ce que j'ai vécu en une formulation. Je trouve ça merveilleux de convertir ce qui a été vécu en quelque chose d'écrit. J'adore cette petite alchimie des choses qui vous fait passer de l'événement au mot.
Un plaisir que ne partageait pas apparemment avec vous Blaise Sandrart, cet écrivain qui a aimé voyager, qui nous a fait voyager. Mais a-t-il aimé écrire? Pas toujours, à l'en croire.
Écrire, c'est une grosse fatigue et c'est bien ennuyeux souvent. Écrire, ce n'est pas réellement vivre. Écrire, c'est aujourd'hui, hélas. Un gagne-pain. C'est donc un vice, c'est une mauvaise habitude. C'est pourquoi ça me dégoûte 9 fois sur 10. Je n'aime pas du tout écrire. Je ne suis pas le seul parmi les écrivains qui dit ça. Il paraît que Colette également se plaint toujours d'être obligée d'écrire.
Vous comprenez ce qu'il veut dire?
Oui, c'est comme Céline à qui on demandait pourquoi il avait écrit Le Voyage au bout de la nuit, qui répondait c'est pour payer le terme de mon petit appartement.
C'est une coquetterie?
Bon, un peu, je pense. J'en sais rien, peut-être pas. Comment vous dire si c'est une coquetterie ou pas? On peut pas savoir quel est le degré de sincérité d'un écrivain. C'est un menteur, un écrivain, surtout quand c'est Blaise Sandrart ou quand c'est Colette. Mais là, comprenez, on parle... Là, ce sont des espèces de météorites comme ça, qui sont des astres, Blaise Sandrart. Non, ce dont je me souviens, c'est que dans L'Homme foudroyé, Sandrart dit qu'il ne veut pas écrire devant un paysage ou devant un panorama, qu'il a besoin d'écrire en tournant sa table devant un mur... parce qu'il ne veut pas être distrait par la beauté du monde. Donc on peut comprendre que chez lui, l'écriture passait par une espèce de plongée très douloureuse en soi. Il fermait les écoutilles, il rentrait dans une sorte d'ermitisme absolu pour pouvoir produire son œuvre. Je comprends qu'il ait souffert.
J'ai noté cette phrase au détour d'une de vos chroniques de cet été, Un été avec Rimbaud, Sylvain Tesson. Savoir où s'établir sur cette terre est la grande question de l'homme quand on y a répondu, une part du mystère de l'existence est résolue. Vous pensez que vous, un jour, vous vous établirez quelque part? Vous trouverez la terre où vous établir?
Je ne sais pas, mais j'aimerais bien, moi, trouver ce qu'avait trouvé Karen Blixen quand elle est arrivée au pied d'une gong en Afrique. Elle a écrit « La ferme africaine » et il y a cette très belle phrase au début du livre « J'étais là où je me devais d'être ». C'est merveilleux, c'est une phrase qu'on a envie de dire au terme d'une longue circulation. Ça peut être aussi la phrase juste avant de mourir. Mais quand on peut dire ça, la mort est plus un problème.
Les chroniques d'un été avec Rimbaud sont encore disponibles en podcast et puis est paru bien sûr en coédition Équateur France Inter, Un été avec Rimbaud, le recueil de ses chroniques, et puis plus ancien, Un été avec Homère, voyage dans le sillage d'Ulysse. Merci Sylvain Tesson, on reste en Méditerranée mais pour une plongée exceptionnelle dans un instant avec le photographe Laurent Balesta, que vous connaissez bien hein, Sylvain, vous restez avec nous. Alors on se retrouve après Le reste de Clara Luciani.
Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie. Expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. C'est mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Perdu sous ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais dans un miroir sans teint, d'où je te regarde t'en sortir à merveille, épier ton bonheur. Me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
C'était Le reste de Clara Luciani sur France Inter. La programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Muriel Pérez.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
On est prêt.
C'est parti.
Dedans, dedans, vous me recevez? Tout va bien, on peut continuer la pressurisation? Ok, on continue.
Ok, on attaque la descente.
35 mètres. 40 mètres.
C'est 4-3. C'est 4-4.
Ok, 55 mètres, tout va bien?
Et nous nous enfonçons doucement dans les profondeurs de la mer Méditerranée. Sylvain Tesson est toujours avec nous et nous a rejoint le plongeur et photographe sous-marin Laurent Balesta. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Nous venons d'entendre à l'instant un extrait du documentaire Planète Méditerranée, réalisé par Gilles Keibaali, diffusé sur Arte. Un film qui dévoile les images superbes de l'expédition que vous aviez menée en juillet 2019 en mer Méditerranée. Cette expédition, Laurent Balesta, c'est la réalisation d'une idée, d'un rêve qui vous trottait dans la tête depuis une vingtaine d'années.
Ben ouais, j'étais un peu lent. À la...
c'est que le rêve était grand.
Bon, je me réveillais pas tous les matins en me disant ça va le faire. Ouais. Mais oui, l'idée, je l'ai eue il y a 20 ans. Je l'avais exprimée à l'époque au grand patron de la Comex, Henri-Germain Deloz, qui m'avait dit « Votre projet ne m'intéresse pas, mais il me plaît.
Mmh. » C'était
et
quoi,
ça avait suffi pour me dire « Ah, c'est pas idiot, donc alors ça vaut le coup de continuer à réfléchir, à trouver toutes les solutions. » Tout ça. Mais voilà, ça a pris tout ce temps-là. Et puis, dès le premier jour, j'ai vu que c'était une bonne idée, parce que dès le premier jour, il y avait des choses magnifiques.
Alors, une mission unique au monde, hein, pendant 28 jours, au large de la Côte d'Azur, entre Marseille et Monaco, vous avez séjourné dans un caisson de 5 mètres carrés, avec 3 autres plongeurs, des amis à vous. Expliquez-nous le dispositif.
L'inconvénient de la plongée profonde, c'est la remontée. Donc, la solution, c'est de ne plus remonter. Et à défaut de ne plus remonter réellement, l'idée c'est de faire croire au corps humain que lui va rester en plongée pendant 28 jours. Donc on est à 120 mètres de fond, on reste aussi longtemps que le froid nous permet de supporter le séjour. Et puis une fois qu'on a passé 3, 4, 5 heures, il est plus possible de remonter à la surface comme ça, puisqu'il faudrait plusieurs jours de décompression. Donc on retourne simplement à une tourelle, une sorte d'ascenseur pressurisé, qui va nous ramener en surface dans une station bathyale qui nous attend, qui elle aussi est pressurisée, donc toujours à la pression du fond. Donc le corps, lui, est toujours à la pression de 120 mètres. Et ça permet d'enchaîner comme ça les plongées les unes derrière les autres, sans jamais se poser la question de la décompression. La décompression ne viendra qu'à la fin de la mission, et effectivement, durera 4 à 5 jours.
Ouais. 4 à 5 jours de décompression au terme.
Oui, mais pour 4 semaines d'exploration sans limite. C'est pas cher payé, finalement.
Exploration sans limite, là, vous avez découvert un monde à part que certains plongeurs avaient pu approcher pendant quelques dizaines de minutes.
C'est l'histoire de ma vie des 20 dernières années, de ces incursions profondes qui, pendant le temps de l'incursion, sont un privilège, mais qui, la seconde après, deviennent une frustration parce qu'on y reste 10, 20 minutes pour tout de suite entamer 3, 4, 5 heures de remontée. Alors, il n'y avait plus cette frustration.
Qu'est-ce que vous avez vu, Laurent Balestin?
C'est ça qui est super, c'est que ça avait du sens, ça a apporté ses fruits. On a passé 28 jours, j'ai ramené 21 rencontres inédites. Soit une espèce animale jamais illustrée vivante, soit une espèce banale mais qui nous offre un comportement inédit, sa reproduction, une scène de prédation. Alors 21 rencontres inédites comme ça, quand on fait une expédition, pourquoi pas? Mais il faut pas oublier que tout ça se passe entre Marseille et Monaco. Mmh. On n'est pas parti au fin fond de la Papouasie. C'est pas ce qu'il y a de plus exotique en termes d'exploration. Et pourtant, on avait cette sensation de nouveau monde presque chaque jour. Quand on se balade au milieu d'une forêt de corail noir...
Ouais. Qui est toute blanche,
il faut vraiment réfléchir, se dire, en fait, je suis à La Ciotat. Ouais. Quand on est sur des tombants vertigineux couverts d'éponges cavernicoles, se dire, je suis au large de Saint-Tropez. Enfin, ça sonnait tellement bizarre, ces lieux communs avec ces sites extraordinaires.
Ouais. Sylvain Tesson, qu'est-ce que ça vous inspire, cette idée que il y a des mondes inexplorés tout proches, finalement?
Mais moi, je connais Laurent Balestin depuis quelques années. J'ai vu les travaux, les films, les photographies, les images qu'il a rapportées de l'Antarctique, quand il est parti rencontrer le Sélakanthe, quand il a plongé au large des îles de Polynésie à la rencontre des requins. Et à chaque fois, ces films sont agrémentés, alimentés, sous-tendus par une idée très originale. J'aime cet anti-conformisme qu'il a. Et là, ce qui m'a beaucoup plu dans cette expédition, c'est bien sûr la valeur de moisson scientifique dont il vient de nous parler, mais c'est la très belle idée quasi philosophique qu'il y avait le problème que posait l'espace, les abysses, mais également le temps. Il s'agit d'une dérive dans le temps autant que dans l'espace. Il s'agit d'un séjour dans l'impossible, et d'un séjour prolongé dans ce qui est impossible. Il parlait des incursions tout à l'heure, et là, tout d'un coup, il n'y avait plus d'incursion puisqu'il séjournait dans l'impossible. Les alpinistes ont rêvé, à l'inverse, en haute altitude, de pouvoir rester longtemps. Et ça a été les premiers enchaînements de sommets de 1000 mètres. Il a fallu attendre très longtemps, jusqu'à la fin des années 70, pour pouvoir rester longtemps en altitude. Et lui, il a fait ça. Je trouve ça merveilleux d'avoir réfléchi à la manière dont on pouvait... régler le problème du temps après avoir réglé le problème de l'espace. Ça, c'est philosophique.
Parce que c'est une première. Alors évidemment, ça ouvre aux questions philosophiques de Sylvain Tesson, mais c'est vrai que c'est une première technologique,
c'est surtout un grand détournement. C'est des moyens de plongée qui, globalement, ont toujours été réservés à l'industrie offshore, à l'exploitation de la ressource. C'est plus vraiment à la mode. Mmh. Et donc, détourner ces moyens d'une industrie assez polluante, au final, pour en faire un outil d'exploration naturaliste, c'est peut-être naïf, mais j'aimerais qu'il y ait le symbole d'une réorientation des technologies et de l'industrie. Mmh. Voilà, c'est un peu symbolique et ça m'arrange bien de penser ça, mais en tout cas, d'un point de vue poétique, il y a ça dans cette histoire.
Ouais. Alors, du point de vue physiologique, vos corps ont quand même souffert dans cette histoire, et puis il y avait la promiscuité, cette station batiale, elle est très bruyante.
On a inventé le confinement.
Ben oui, c'est ça, vous étiez des précurseurs.
Je ne savais pas que ça lancerait une mode internationale comme ça. Là, vraiment...
Comment vous l'avez vécu, ce confinement avant l'heure ?
Je crois qu'on peut faire le parallèle avec le confinement qu'on a tous vécu. C'est que dès qu'on comprend le sens de ce confinement, alors on le supporte. Après, oui, 5 mètres carrés, 4, pas de fenêtre, un inconfort thermique lié à cette atmosphère d'hélium, l'hélium étant un gaz conducteur, un gaz thermique conducteur. Pour comprendre la différence de la conduction d'un gaz, par exemple, entre l'air et l'hélium, il faut imaginer quand on marche sur du bois, quand on marche sur du métal. On marche sur du bois, il peut être froid, il peut être chaud, ça passe. Mmh. On marche sur du métal, quand il est froid ou quand il est chaud, ça change tout. Mmh. Voilà. Ben, un gaz, ça peut être pareil. Quand on respire de l'hélium, c'est pas comme respirer de l'air. Il suffit qu'il soit un tout petit peu froid et ça vous glace l'intérieur. Le froid, à ce moment-là, n'est plus une morsure, c'est un poison. Mmh. On n'avait plus le problème de la décompression, mais on découvrait une nouvelle contrainte qui était ce poison du froid qui nous empêchait parfois de rester aussi longtemps qu'on aurait voulu.
C'était le prix pour aller voir ces îlots de diversité au fond de la mer Méditerranée.
Oui, des îlots, hélas.
Parce qu'il faut en parler. Vous nous montrez des superbes images, mais c'est un peu... Oui, ce sont des oasis dans des déserts.
Oui, c'est ça. Je ne crois pas cacher la vérité. Hein. On pose les enjeux tout de suite au début. La Méditerranée est une mer blessée, torturée, malmenée. Il y a une présence humaine depuis des millénaires. Et il y a un impact très fort. Certains rapports disent que ce serait même la mer la plus polluée du monde pour les microplastiques, tout ça. Ça, c'est une réalité. Il y a plein de gens qui le montrent. Ils ont raison de le faire. Ils ont du courage de le faire parce que c'est démoralisant. Moi, j'avoue, égoïstement, je me suis dit que c'était peut-être complémentaire de montrer que, précisément, elle souffre. Donc, elle n'est pas morte. Voilà. Et qu'il fallait montrer qu'il y avait encore ces refuges de biodiversité, des zones un peu où on a vraiment la sensation que viennent là tous les refoulés d'un littoral sous pression. Est-ce que de ces îlots de biodiversité, quelque chose peut repartir un jour ? Je ne sais pas. Si certains ont besoin de l'espoir, peut-être qu'ils trouveront dans toutes ces images l'espoir dont ils ont besoin.
Quelles images vous gardez de ces plongées ? Qu'est-ce qui vous reste ?
Je ne sais pas. Le premier jour était tellement fort parce que nous étions tellement fébrile cette première sortie. Et on a été immédiatement récompensé par le spectacle de la reproduction des calamars veinés, une espèce très rare que j'avais photographié qu'une seule fois 10 ans auparavant et qui là nous offrait le spectacle de leur reproduction. Sachant que les calamars veinés, comme tous les calamars, ne s'accouplent qu'une seule fois dans leur vie et meurent juste après. Et on était là.
Ils vous ont fait ce cadeau-là.
Ils nous ont fait ce cadeau-là.
Il y a un peu de la Panthère des Neiges dans ce calamar veiné, Sylvain Tesson.
Oh, oui, certainement, dans l'apparition qui devient une sorte de récompense, probablement. Mais surtout dans la vénération que l'on fait de la beauté. Et en Plestin, on ne va pas quand même lui faire le reproche et le grief d'être un archiviste de la beauté. Il y a quand même suffisamment peu de gens qui parlent de la nature et de la défense de la planète en se servant du prisme de la beauté du monde pour qu'on lui économise quand même le reproche. Moi, je lui dis merci parce qu'à chaque fois qu'on voit ces films, on voit l'immense beauté de ce continent sous-marin et ça donne finalement davantage envie de tout donner de sa vie pour essayer de le défendre et pour essayer de le sauvegarder plutôt que les éternels lamentation. Voilà. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que il y a une très belle phrase d'un écrivain qui avait parlé de la montagne, qui s'appelait René Dommal, mais que je trouve très applicable au monde qu'explore Laurent Balista. Il disait le fantastique. Le mot fantastique ne s'applique pas à la haute montagne parce que là-bas, le réel est plus fantastique que tout ce que l'homme pourrait imaginer. Mais écoutez, franchement, regardez les images qu'il a rapportées de ces plongées, de ce séjour, de cette installation dans l'endroit où on ne devrait faire que passer. Et vous comprendrez que, premièrement, c'est le fantastique, c'est beau, et c'est parce que c'est beau que ça mérite d'être protégé, et non pas uniquement uniquement parce que c'est notre environnement qui nous permettra à nous autres de survivre.
Et pour découvrir les superbes photos faites lors de cette expédition, il y a votre ouvrage, Laurent Balesta, Planète Méditerranée, aux éditions Andromède. Nous allons mettre les références sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Merci Laurent Balesta et merci Sylvain Tesson. Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission, bien sûr, et les précédents épisodes en podcast. Merci pour les messages que vous nous adressez sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac ou sur franceinter.fr. Et à demain pour de nouvelles aventures.